Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h dans ce studio, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Des partis politiques estiment que les prochaines élections au Mali ne seront pas transparentes et crédibles. Drame au quartier du Labourou de Gao, des pinasses remplies de barriques d'essence ont pris feu hier au bord du fleuve. Hivernage et paludisme, les personnes les plus touchées sont les enfants des 0 à 5 ans et les femmes enceintes. On en parle dans notre dossier de la semaine. À la présentation, Hamsi Toutouri. Il n'y aura pas d'élection transparente et crédible au Mali en 2024, déclare le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie au Mali. Bonne ou pas bonne, les élections se tiendront, répond le parti Union pour la sauvegarde de la République. Ces déclarations ont été faites dans le grand dialogue de Studio Tamani de ce lundi sur le chronogramme électoral. Écoutons donc des extraits du débat avec Imran Akulumaïga.
Le porte-parole du cadre d'échange de partis et regroupements politiques pour une transition réussie estime que les conditions ne sont pas réunies pour compter sur des élections transparentes. Amadou Aya.
Peut-être des élections qui seront acceptées dans le cadre d'un consensus, dans le cadre d'un compromis politique pour nous permettre de sortir vraiment de cette situation.
Des élections transparentes ou pas, l'essentiel est d'avoir des échéances électorales crédibles, affirme Noun Togo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République, ISR.
Les élections se tiennent, bonnes ou pas bonnes, c'est la position qu'on se donne. Il y aura des élections acceptables et crédibles, ce qui est important. Je suis convaincu d'une chose, il y a eu beaucoup d'évolutions.
L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie salue notamment l'effectivité de la loi électorale, la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, EIGE, et le lancement de la révision des listes électorales. Cependant, elle déplore aussi beaucoup de retard. Adam Diko, directrice exécutive de l'ASICAD.
Les nouveaux majeurs, jusqu'à présent, ils n'ont pas cette possibilité aujourd'hui de s'inscrire. Et jusqu'à présent, les démembrements des LEJ n'ont pas encore été mis en place.
À noter que le référendum est prévu en mars 2023 et la présidentielle à partir de février 2024, selon le chronogramme électoral.
En ce qui concerne la nouvelle constitution, le Conseil national de transition précise qu'il n'examinera pas l'avant-projet du texte. Ses responsables expliquent les prochaines étapes avant le référendum prévu en mars 2023. Mamadou Diarra Souba, membre de la commission loi du CNT, est joint au téléphone par Imran Akulumaïga.
Vraiment savoir que ce n'est pas une révision constitutionnelle, c'est l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et dans ce cas, c'est le président de la République face au peuple. Le président de la République face au peuple, cela veut dire quoi? On le soumet l'avant-projet de la constitution. Après, lui-même, il cherche vraiment à amender ce qui lui a été déposé. Donc, ça devient projet de constitution. À ce moment, il soumet au Conseil des ministres. Une fois que le Conseil des ministres vraiment adapte le projet de loi constitutionnelle, donc le président de la République soumet à l'avis du peuple, c'est-à-dire au référendum.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, des pinasses remplies de barriques d'essence ont pris feu au bord du fleuve au quartier du Labourou de Gao. L'incident s'est déroulé lundi nuit. La cause de l'incendie serait toujours inconnue selon des témoins. Assey Traoré est conducteur de pinasses à Gao et témoin du drame. Il est au micro de notre correspondant Ali Meïa.
Je suis venu vers 5h du matin. Mon petit frère et moi, on était assis côte à côte. Sa pinasse et la mienne étaient garées l'un à côté de l'autre. Il y avait deux autres pinasses aussi. On s'est préparé à prier quand l'explosion s'est produite. J'ai pu dégager ma pinasse, mais les trois autres ont pris feu. Il y avait 100 barriques de carburant dans l'une des pinasses. Son chauffeur a été blessé. Les pompiers sont venus, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose. Pour le moment, il n'y a pas de mort.
Autre actualité du jour, des hommes armés non identifiés ont attaqué le village de Djan dans la commune de Ségué, cercle de Bankass. C'était ce lundi 24 octobre 2022. Des sources locales témoignent que les assaillants ont tiré des incendiaires sur le village à partir d'une colline. Un mort a été enregistré selon les populations locales. Parmi les dégâts matériels figurent des greniers et maisons incendiées. 5 morts, 4 blessés, c'est le bilan d'attaque perpétrée castrés contre plusieurs villages de la commune de Timissa, cercle de Tominia. C'était le week-end dernier. Les auteurs seraient de présumés groupes terroristes. Des autorités locales précisent que le village de Mamadaga a été incendié dimanche 23 octobre et celui de Anledaga lundi 24 octobre 2022. Sur un tout autre sujet, dans la zone des Kita et des Bankas, la campagne agricole 2022-2023 est menacée par des oiseaux granivores et des insectes. Une situation qui n'est pas sans impact sur les objectifs en termes de prévision selon les chefs secteurs d'agriculture. Les paysans de leur côté alertent sur une insuffisance alimentaire. Le reportage est signé Lale Tangara avec le concours de nos correspondants.
On a commencé très tôt la récolte des mil. Par contre, dans les villages voisins, il y a eu des dégâts.
Nombreux sont donc les paysans qui ont anticipé leur récolte. C'est le cas ici d'Abdoulaye Tou, paysan à Bankas. Il déplore la destruction des champs à cause des oiseaux appelés mange-mil. C'est la même situation à Kita. Zoumana Tunkara, vice-président de la Chambre d'agriculture de Kita, il prévient que les objectifs de la campagne agricole 2022-2023 ne seront donc pas atteints à Kita.
On peut dire que le mal est déjà arrivé. Les oiseaux sont entrés au champ. Ils ont atteint nos cultures.
Alaï Togo est le chef secteur de l'agriculture de Bankas. Il affirme qu'il n'y a pas moyen de lutter contre les oiseaux granivores, car le problème persiste depuis 2008.
Il y a eu une prolifération massive de ces oiseaux. Les dégâts, on peut dire, c'est estimable.
Si à Bankas, des champs de mil continuent d'être ravagés par des oiseaux granivores, à Kita, selon des responsables de la Chambre d'agriculture, des pourparlers sont en cours avec les autorités afin de trouver une solution.
À présent, place au dossier de la semaine. Au Mali, on constate une forte hausse des cas de paludisme ces jours-ci. Un responsable du Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, affirme que plus du tiers des consultations sont des cas de paludisme. Le rapport annuel de 2021 du PNLP fait état en effet de plus de 3 millions de Maliens touchés sur toutes les couches, les plus vulnérables que sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. L'hivernage, une période bénie pour le paludisme, est un magazine de Lale Tangara.
Makandiara est garde malade de son fils de 4 ans, hospitalisé pour un palu sévère. Dans la salle voisine, Yaï Traoré est tout aussi soucieuse. Son garçon de 8 ans est couché. Lui également souffre de palu. Les deux parents indexent la prolifération des moustiques.
Je suis avec mon fils souffrant. Il a le palu, il est aussi agité.
J'accompagne mon garçon de 8 ans qui fait un palu grave. Il s'est plaigné de sa tête et ça s'est aggravé. Il fait des crises.
Dans cette pharmacie, l'affluence est visible. Le pharmacien explique qu'il y a une forte demande d'antipaludéens et d'antibiotiques. L'hivernage et les eaux stagnantes favorisent la multiplication des colonies de moustiques. Et bonjour les dégâts. Mohamed Aguibou Diallo, pharmacien.
D'abord, les médicaments du palu, les médicaments contre le rhume, également contre l'angine. Après ça, viennent les médicaments des maladies chroniques, comme la tension, le diabète. Nous vendons plus les médicaments du palu actuellement.
Vincent Sanogo est conseiller technique du Programme national de lutte contre le paludisme. Il confirme le lien entre les pluies et cette forte hausse de cas de palu. Il invite la population à respecter les mesures de protection et aussi d'assainir régulièrement les lieux.
Il y a une légère augmentation des cas de paludisme par rapport à l'année passée, mais on ne peut pas parler d'une flambée exponentielle. Il y a eu assez de pluie cette année par rapport à l'année passée, donc ça a aussi entraîné une petite augmentation des chiffres dus au palu par rapport à l'année passée aussi. Du début de l'année à maintenant, il y a eu des décès enregistrés dus au paludisme. Nous n'avons pas le chiffre exact, mais l'année passée, les chiffres qui avaient été rapportés par le système d'information sanitaire du Mali faisaient état d'environ 1400 décès enregistrés dans les formations sanitaires publiques.
Vincent Sanogo ajoute encore que pour lutter contre le paludisme, des stratégies ont été élaborées par les autorités sanitaires. Il cite par exemple la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés et encore les campagnes de vaccination. Malgré tout, le paludisme continue de faire des victimes à travers le Mali.
Nous recevons à présent Mariam Koulibaly pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam, de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir ?
Comment rendre le lait local plus attractif ? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Moussa Diko de la Fédération nationale des producteurs de lait au Mali, Khalifa Dansogo, directeur des productions et industries animales à Nioro du Sahel, Abdoulaye Balo de l'Association libre des consommateurs maliens. Merci.
Merci Mariam. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est ce qui referme donc ce journal. La mise en onde a été assurée par Mamadou Ouattara. Restez à l'écoute dans un instant, le magazine Toutes les femmes du Mali. Notre magazine Toutes les femmes du Mali d'aujourd'hui s'intéresse aux femmes syndicalistes. Le dialogue social, la conférence sociale sur le travail, s'est tenue à Bamako du 17 au 22 octobre 2022. Quel est le regard de ces dames syndicalistes sur cette rencontre? Leurs préoccupations ont-elles été prises en compte dans les recommandations? Éléments de réponse dans ce magazine réalisé et présenté par Moussa Malé Sissoko avec l'appui de nos correspondants.
Pour cette participante à la conférence, le dialogue social est nécessaire pour l'apaisement du front social au Mali. Selon elle, la multiplication des syndicats devait être un moyen pour faciliter le dialogue.
Normalement, c'est une arme pour apaiser les cœurs et les esprits des uns et des autres en cas de conflit, en cas d'opposition. Donc c'est une nécessité. Chacun doit s'armer de dialogue social pour le bon fonctionnement de tout ce qu'on doit entreprendre. Aujourd'hui, vu tous les problèmes que nous traversons au Mali, sans ce dialogue-là, rien ne peut aller. C'est à travers le dialogue qu'on s'instaure la confiance mutuelle entre les acteurs.
Toutefois, certaines femmes syndicalistes soutiennent que cette rencontre de 6 jours a permis d'identifier les mécanismes permettant d'aboutir à une stabilité sociale. Elles estiment qu'il faut mettre un accent particulier sur la formation des syndicats et leurs employeurs, sur les connaissances du syndicalisme. Madame Tandja Fatoumata Dede Keïta, membre du syndicat libre des travailleurs du ministère des Affaires étrangères.
Les débats ont permis de comprendre pas mal de choses. L'un des droits des syndicats, par exemple, c'est de disposer d'un local. Je peux dire que ce droit n'est pas aussi connu par les syndicats. Peut-être c'est une insuffisance de connaissance des textes. Le syndicat ainsi que le patronat ont des droits, des devoirs vis-à-vis des uns et des autres. Cette liberté syndicale, c'est une insuffisance de connaissance, disons, des textes. Sinon, quand on connaît les textes en profondeur, ce dialogue social sera beaucoup plus fluide entre le patronat, les autorités, les syndicats.
Madame Boire Kabasimaga est secrétaire générale adjointe de la division SNEB à Ségou, syndicat national de l'éducation de base. Elle indique que ces doléances ont été prises en compte dans les recommandations de la conférence sociale.
Il y a plusieurs de nos recommandations quand même qui ont été prises en compte, qui font partie des recommandations. On espère aussi dans les jours prochains des suites favorables. On a parlé de l'octroi des primes et indemnités en fonction des spécialités dans les différentes fonctions publiques et aussi de la revalorisation de la grille salariale qui va beaucoup nous arranger et aussi de la réduction de la durée de la troisième classe qui était à 14 ans, de réduire ça à 8 ans. Mais quand même, on espère avoir des primes, surtout dans chaque corporation.
Au terme des travaux, les participants à la conférence ont formulé 139 recommandations, parmi lesquelles la rationalisation des primes et indemnités ainsi que la relecture du code de travail pour clarifier la procédure de création des syndicats.